Émile Bergerat, L'enfant corse, conte corse. Aimez-vous les histoires corses, ou pour mieux dire, de vendetta corse? En voici une qui m'arrive de l'île de Colomba, et précisément de Sartène, dernier refuge de ce pauvre banditisme contre lequel on mène si rude guerre. J'ai laissé là quelques amis qui m'entretiennent encore des choses et des gens du pays. « Ça n'a pas changé, m'écrivent-ils, depuis votre voyage en 1887, et nous restons fidèles à nos mœurs comme à nos coutumes ethniques, qui sont les bonnes. La Corse est l'île de l'honneur. Jugez-en d'ailleurs une fois encore. » Dans le triangle de maquis montagneux inscrit entre Sartène, Ponte Vecchio et Bonifacio, et qui forme la pointe méridionale de l'île, il y a, sous un contrefort du mont Scoporto, un hameau de 200 âmes divisé par une vendetta séculaire, celle des Arboli et des Maratha. Le village est considéré par eux comme terrain neutre. Ils y vivent en face les uns des autres et leurs maisons se regardent. Si les femmes de chaque famille se rencontrent à la fontaine ou à l'église, sur la place, et même y causent ensemble, les enfants restent séparés dans leur jeu et singent naïvement la haine de leur père. Ils en hériteront. Du reste, l'école est lointaine, 14 kilomètres, et ils n'y vont pas. Quant au catéchisme, le recteur est un Corse lui-même, et sur la question de la vendetta, il ferme l'évangile et corne son bréviaire. Amen. C'est donc hors du village que la chasse commence et que les Arboli et les Maratha se guettent au coin des monts, le fusil au dos et la poire à poudre à la ceinture depuis un temps immémorial. Ils ne savent même plus exactement eux-mêmes la cause originelle de leur animosité héréditaire. Ils ne cherchent pas à l'établir, encore moins à la lucider. Le virus est dans le sang. Il s'y perpétue de père en fils et jusqu'aux confins du cousinage. Le meurtre d'un Arboli nécessite celui d'un Maratha, et vice-versa, par loi de conséquence. Ça n'empêche pas de se reproduire dans chaque clan par des mariages consanguins d'ailleurs que le curé bénit à vol de cloche. Le pays où le code Napoléon a le moins obéi est celui où son auteur est né. Quant aux gendarmes, ces organes beauté, vous devez vous rappeler encore en quel mépris on les tient dans l'île. En abattre un dans les lentisques parfumées, c'est acquérir une gloire à la Guillaume Tell, où le bon tireur s'exalte de l'homme libre. Antonio Arboli, fils aîné du dernier Arboli, meurtrier du dernier Maratha, car nous en étions là, certaines de leur duel centenaire, s'était payé, l'automne dernière, la peau buffletée de l'une de ses autorités ambulantes, avait pris le maquis et il s'éterrait comme un lapin dans les romarins. Une battue stratégique menée par un pendeur habile, le plus habile même que nous ayons, avait débusqué le jeune bandit de sa retraite. Cerné de toutes parts, il s'était réfugié chez le curé même de la paroisse, qui est un Arboli et son parent. L'asile était bon et d'un choix ingénieux, car le prêtre n'était pas homme à laisser violer son presbytère, ni par des civils, ni par des militaires. Il avait décroché à tout événement un lourd crucifix de bois, de fer et de bronze qui pendait comme une hache de panoplie sur sa couchette. Mais la nuit venue, Antonio avait eu honte de la situation funeste où il plaçait le pauvre révérend en temps de république, et bondissant par la lucarne du grenier, il avait pris sa course dans le village. Comme il passait devant la maison des Maratha, il en vit la porte ouverte. Sur le seuil, Cara Maratha, dame du logis, tordait le linge du moire, dont un petit garçon lui passait les pièces. L'enfant s'appelait Jean, il avait 6 ans. Antonio regarda la mère et d'un geste, sans un mot, il lui indiqua le presbytère d'où venait un bruit de bottes et de sabres. « Entre !» dit la femme corse, et elle tira la porte sur l'hôte. Or, ne l'oubliez pas, le bandit traqué n'était autre que le fils aîné de l'Arboli, qui avait tué le beau-père et oncle de Cara, soit le vieux Paolo Marotta, propre père du chef actuel de la famille, père à son tour du petit Jean. Ce chef s'appelait lui aussi Paolo, comme le trépassé, et c'était entre lui et Antonio qu'était la chemise sanglante. Donc, Paolo entra chez lui pour la soupe. « Oh, journée perdue !» dit-il en déposant fusil et cartouchère. « Je l'ai cherché là-haut, dans le maquis, jusqu'à la chute de la lumière. »« Pas d'Antonio Marotta. » « Mais il est ici, » dit simplement la femme. « Oh, chez nous ? » ?»« Le village est occupé par la gendarmerie. Écoute. » « Oh, tu as bien fait, » déclara Marotta, un peu pâle. « Bon, mais je veux pas le voir. Cache-le bien et prends soin de lui. Je vais à Sartène et j'y resterai jusqu'à son départ. Va, et sois tranquille. Oh, ils ne l'auront pas. » Puis comme la gendarmerie perdait son temps et sa peine, elle évacua le village. Le lendemain pourtant, le brigadier reparut. Il était seul. Tout en feignant d'avouer sa déconvenue et ses excuses faites au curé, il se renseignait auprès des commères qui, chez nous comme ailleurs, sont bavardes autour des fontaines. Tout ce qu'il en apprit cependant, c'était que la Cara Marotta était allée étendre son linge au soleil sur les arbustes odorants de la montagne. Comme les Marotta étaient notoirement les ennemis des Arboli, la nouvelle était pour lui sans indice. Quoiqu'il fût assuré que le bandit n'était pas sorti de la commune, il ne pouvait s'arrêter raisonnablement à l'idée qu'un Arboli fût caché chez un Marotta, et surtout s'il l'était, que son hôtesse eût laissé la maison déserte à la garde d'un enfant de 6 ans. Mais outre que le gendarme abattu par Antonio dans la brousse était son propre frère, et que l'atmosphère même du pays activait son besoin de vengeance, il se méfiait terriblement des Corses, capables de tout, disait-il, et bon à rien. Il fit donc à tout hasard un nouveau tour dans les rues du hameau, et parvenu devant l'habitation des Marotta, il y vit le petit Jean, à califourchon, sur la balustrade de l'avancée en terrasse, où se signe l'architecture locale de nos Basidons. « Ah, te voilà sur un beau cheval de pierre !» lui cria-t-il. Mais l'enfant, saisi de peur à la vue du bicorne symbolique, s'était enfui en lui faisant les cornes. « Attends, polisson !» Et le brigadier grimpa les degrés du perron. « Es-tu donc seul ? » fit-il en lui pinçant l'oreille. « Maman va venir. Et c'est toi qui gardes la maison, à ton âge. Tu dois t'ennuyer, sans frère, sœur, dit camarade. As-tu des joujoux ? Veux-tu que je sors la porte d'Ajaccio ? Oh, oui, si maman veut. Eh bien, mais il faut que j'aille d'abord à Ajaccio. Mais quelle heure est-il ? Le brigadier tira sa montre. Les yeux de Jean s'allumèrent comme tisons de braise. « C'est joli, hein, et ça chante, écoute, tic-tac, tic-tac. » Il la lui mit à l'oreille. « La veux-tu ? » ?»« Oh oui, monsieur le gendarme. » »« Alors, entrons. » Un quart d'heure après, Antonio Arboli, fortement garrotté, les cheveux pleins de paille et tout suant d'une lutte désespérée, descendait dans la rue sous le poing victorieux du gendarme et s'y rencontrait avec Cara Marotta, muette d'épouvante. « Tu n'es pas une Corse, lui jeta-t-il. Mort aux Marotta, honte aux lâches !» L'enfant sur le perron écoutait, épanoui, le tic-tac de la montre, et la malheureuse comprit. Elle hurla toute la nuit comme une bête égorgée. Au petit jour, Paolo parut. « Oh, je sais, fit-il, j'ai vu passer Antonio enchaîné sur la place à Sartène. Que tous les baratins soient ici à midi dans la maison de famille. Et toi, femme, prépare l'enfant. À quoi ? Bah, tu es sa mère. Oh, mon Dieu, Paolo, je n'ose deviner. Mais nous n'avons que lui. Prépare l'enfant, te dis-je. » L'arrêt des maratins fut unanime. Avait alors la mère, car il y en a de telles dans l'île de l'honneur, prit son petit sur les genoux et doucement lui expliqua son crime. Elle lui dit en quoi il consistait, ce qui le rendait impardonnable et de quel châtiment il fallait l'expier. « Tous les parents seront là pour te voir mourir, bien mourir, mon cher enfant. Et toi, maman, y seras-tu ?
J'y serai, je te le promets.
Et mon papa ?
Mais ton papa aussi, fut la réponse.
Et elle l'assura qu'il ne lui ferait pas de mal. Il était le premier tireur de Corse infaillible. L'heure venue, ils conduisirent l'enfant au fond du jardin, les yeux bandés. Il avait demandé qu'on lui accrochât sur le cœur la montre du méchant gendarme. Ne la manque pas, mon papa. Et mon correspondant de Sartène termine par ce trait à la Mérimée. Il a manqué ni la montre, ni le cœur. Je ne dis pas, et je ne me dissimule pas l'effet de révolte sentimentale que ce récit, dont j'ai adouci de mon mieux la corserie, produira sur les âmes un peu moites de la plupart des lecteurs. Nous sommes ici dans l'île escarpée de l'honneur. Vertu bête qui, comme l'amour, échappe aux lois de la moralité, et du reste n'a plus guère de poète. Peut-être vaut-il mieux laisser un conte au conte de l'imagination, vieux jeu de mon propre romantisme, une histoire qui trouvera peu de crédules. N'en parlons plus, oublions-la, et rentrons dans la république d'affaires.